C'est bon, tout le monde a pu être servi. Vous avez amené votre Bible? Non? Vous la lisez à l'écran? Comment vous ferez quand il n'y a pas d'écran à la maison? Gloire à Dieu. Alors, est-ce que certains ont déjà entendu parler du mot appel? Un appel. Tu as un témoignage, maman, tu le donneras après? Ok. Rappelle-le-moi si j'oublie. Hein. L'appel. Ah, mais c'est mon appel, c'est pas mon appel. Je parle pas d'un appel en absence. Hein. Quoique, on va voir qu'il y a aussi des appels en absence dans le corps de Christ. Mais... Romains chapitre 1. On va regarder plusieurs écritures ensemble aujourd'hui. Romains chapitre 1. Je vais enlever ça. Verset 1. Paul écrit, comme vous le savez, et il dit, Paul, donc il se présente en tant qu'auteur de l'épître, serviteur, chaque mot a son importance dans cette phrase, serviteur de Jésus-Christ. Appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Appelé à être apôtre. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Appelé à ceci, appelé à cela. Alors, l'appel, d'abord on peut regarder étymologiquement ce que ça veut dire. Appel, c'est en grec le mot klésis. C'est un nom féminin, donc une klésis. Et ça se définit où il y a des synonymes qui sont les suivants. Donc un appel, une vocation, ça veut dire la même chose. Mais c'est aussi une invitation, notamment une invitation à une fête. Si vous fêtez votre anniversaire ou si vous allez vous marier et que vous invitez, vous êtes en train d'appeler quelqu'un à ce que vous avez organisé. Et vous l'avez organisé, si vous l'avez invité cette personne, en pensant à cette personne aussi, en disant, tiens, vous visualisez la scène où cette personne va pouvoir bénéficier, interagir, lors de quelque chose que vous avez préparé, d'avance. Ce mot klésis, donc appel, il apparaît 11 fois dans le Nouveau Testament. Donc c'est pas énorme. 11 fois dans le Nouveau Testament. Il a un adjectif, donc appelé, klétos, qui lui apparaît 10 fois. Donc ça fait 21 fois sur le même thème. Appelé. Et les dictionnaires bibliques nous disent que lorsqu'on est appelé, d'après le Nouveau Testament, on est appelé à deux choses. Soit on est appelé à une fonction, à une charge, c'est ce que semble nous dire Paul, il est appelé à être apôtre. Ça veut dire quoi? Il a été invité par Dieu, hein, Dieu ne lui a pas mis un pistolet sur la tête, il a été invité par Dieu à quelque chose que Dieu avait déjà prévu d'avance et qui est le fait d'être apôtre, mais également invité au salut. Dieu appelle les êtres humains à être sauvés. Il a préparé quelque chose d'avance et chacun est invité. Mais Dieu ne forcera personne. Et ça vient du mot kaléo, qui lui par contre apparaît 138 fois dans le Nouveau Testament. Et là ça peut être appelé, j'ai appelé mon fils Jean. J'ai appelé ma mère au téléphone. Ça, c'est kaléo. Mais c'est également appelé. Regarde avec moi dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 2. 1 Thessaloniciens, chapitre 2. Au verset 12, il est dit, « Vous exhortant, vous consolant, vous conjurant, de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. » Qui vous appelle à son royaume, qui vous appelle à sa gloire mais qui ne vous appelle pas forcément à être apôtre. Vous savez, il y a différentes onctions dans le corps de Christ. Il y a des onctions d'évangélistes, il y a des onctions d'apôtres, il y a des onctions d'enseignants. Il se trouve que j'ai, moi, une onction d'enseignant qui est sur moi. Ce qui veut dire qu'en général, quand je prends le micro, je vais vous décortiquer les choses. Alors, je sais que ça peut paraître des fois un peu scolaire, un peu rébarbatif, etc. Mais restez accrochés et vous allez repartir avec quelque chose ce matin. D'accord ? Parce qu'on entend beaucoup ce mot, un peu à tort et à travers, dans l'Église, dans les milieux chrétiens, et on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. On n'arrive pas à définir les choses. Appeler, c'est d'abord et avant tout, nous sommes tous appelés par Dieu au salut. Tous les êtres humains sont appelés par Dieu. D'accord ? Matthieu chapitre 22, et vous allez voir exactement dans une parabole de Jésus de quoi il s'agit. Matthieu chapitre 22, verset 3. Matthieu 22, 3. Il envoya, donc même verset 1, je vous lis d'abord. Jésus prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. » Verset 3, « Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. » Et là, dans la parabole, on voit qu'ils ne voulurent pas y venir. Bon, c'est leur choix, mais ils ont été appelés. Donc, je dirais à ce stade-là, quelle est la gloire à tirer d'un appel? Aucune. Dieu a tout fait. C'est lui qui a préparé les noces, c'est lui qui a préparé le festin, c'est lui qui a pensé à toi. Et tu as été appelé, seulement tu as répondu à son appel, ce qui ne sera pas forcément le cas de tout le monde. Mais tout le monde est appelé. Bien. Donc, l'appel, c'est l'appel à connaître Dieu. C'est l'appel au salut. Je fais une petite parenthèse. Je vous invite, même si vous n'êtes pas forcément des gens qui aimaient passer des heures et des heures et des heures à étudier la parole. Ne vous contentez pas de lire la Bible, étudiez la Bible. Vous dites, mais comment on fait pour étudier la Bible? Ben, vous voyez que souvent, quand je prêche, je parle d'étymologie. Parce que le Nouveau Testament a été écrit en grec, il n'a pas été écrit en français. Donc, quand un traducteur a un texte grec devant lui et qu'il doit le traduire en français, c'est difficile des fois de pouvoir, en une seule phrase, en un seul mot, traduire toutes les nuances qu'il y a dans quelque chose. Et il y a aujourd'hui, grâce à Internet notamment, des outils gratuits qui permettent d'étudier très facilement. Donc si vous souhaitez décortiquer un verset ou savoir exactement de quoi Dieu parle, eh bien vous pouvez aller, notamment vous chercher sur Internet, la concordance Strong. Strong était un monsieur, un anglophone, qui a fait une sorte de dictionnaire biblique étymologique. Donc, quand vous allez sur un site comme Enseigne-moi, par exemple, et vous avez accès à la Bible en ligne, quand vous affichez votre verset, vous avez une petite case que vous pouvez cocher si vous voulez afficher ou ne pas afficher la concordance Strong. Et si vous affichez la concordance Strong, vous allez voir qu'il y a des numéros qui apparaissent à côté de chaque mot du verset ou du passage. Et si vous cliquez sur le numéro, eh bien vous allez avoir le mot grec original avec ses subtilités, ses définitions. Et également, les autres versets de la Bible où ce mot est employé. C'est comme ça que je peux savoir très facilement que le mot « klésis » est employé 11 fois dans le Nouveau Testament. D'accord ? Vous avez d'autres mots qui sont utilisés dans beaucoup de cas. Alors, ça ne remonte pas dans l'Ancien. Pourquoi ? Ben parce que l'Ancien n'a pas été écrit en grec, il a été écrit en hébreu. Mais vous avez la même chose en hébreu. Donc, vous pouvez facilement étudier les choses. Et vous allez voir que si vous vous donnez la peine de dire « Seigneur, allez, je veux étudier pendant une demi-heure. » Et vous vous mettez au calme et vous plongez. Le Saint-Esprit va vous révéler des choses. Il va vous parler. Il va vous parler à travers la parole de choses que vous n'aviez pas encore vues ou entendues. Et vous allez découvrir la joie de découvrir par vous-même, entre guillemets, c'est-à-dire sans qu'il y ait forcément un prédicateur, les richesses de la parole de Dieu. Bien, c'était une petite parenthèse. Donc, en ce qui concerne l'appel, on a vu que nous sommes appelés à son royaume et à sa gloire et que Dieu a envoyé ses serviteurs pour appeler les invités. Donc, première partie d'être appelé, ça veut dire quoi? Ça veut dire être appelé au salut. Et il n'y a aucune gloire à retirer de cela, si ce n'est rendre la gloire à Dieu qui a voulu partager sa gloire avec nous. Bien. 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5. Au verset 17 et suivant, il nous est dit: si quelqu'un est en Christ, 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, donc on parle de quelqu'un qui a répondu à l'appel de Dieu au salut, qui a saisi l'invitation au banquet. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de ma piété, non. De mes études, non. De mon argent, non. De ma culture, de mon éducation, non. De ma force, non. Du nombre d'heures que j'y passe, non. De la transpiration que je produis, non. De moi, même pas. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné, qu'est-ce qui est écrit dans vos Bibles ? Le ministère de la réconciliation. Peut-être que vous avez entendu le mot appel accolé au mot ministère. Ah, je suis appelé au ministère. Oh, clap, 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 quelle chance. Tu es donc un élu. Peut-être même l'élu. Non, parce qu'il nous est dit ici que si quelqu'un est en Christ et qu'il est une nouvelle création et qu'il a accepté la réconciliation avec lui-même que Dieu lui offrait, alors cette même personne qui a été appelée au salut et qui l'a accepté est appelée au ministère de la réconciliation. Nous faisons donc, verset 20, les fonctions d'ambassadeur pour Christ. C'est quoi un ambassadeur ? C'est le représentant d'un royaume ou d'un État étranger dans un autre royaume. C'est un peu ce que nous sommes. Nous avons changé de royaume. On n'a pas changé de nationalité, ton passeport est toujours le même, mais tu faisais partie du royaume des ténèbres et Dieu t'a transporté dans le royaume de son Fils bien-aimé quand tu as accepté le salut. Tu as changé de royaume, mais tu vis toujours dans un monde dominé par les ténèbres. Ton but, c'est quoi ? Faire fonction d'ambassadeur pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Tu dis, mais quelle est ma raison d'être sur terre ? Ça, c'est ta raison première. Accepter l'invitation de Dieu, naître de nouveau, être réconcilié avec Dieu uniquement grâce à ce que lui a fait pour cela, puis faire office d'ambassadeur pour lui en exerçant le ministère de la réconciliation. Celui qui n'avait pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc, le ministère, tiens, voilà un autre grand mot qui fait couler beaucoup d'encre et où on n'arrive pas à savoir exactement ce qu'il y a derrière. Mais toi, tu es appelé au ministère ? Non, moi je ne suis pas appelé au ministère. Eh bien c'est faux, nous sommes tous appelés au ministère. Le ministère de la réconciliation avec Dieu. Donc, vis-à-vis de tes collègues de travail, tu es appelé au ministère de la réconciliation avec Dieu. Vis-à-vis de tes voisins, tu es appelé au ministère de la réconciliation avec Dieu. Dans ta famille, s'il y a des gens qui ne connaissent pas Jésus, qui ne l'ont pas accepté, tu es appelé au ministère de la réconciliation avec Dieu. Dans le bus, etc., etc., etc. Tu es appelé. Et tu es appelé au ministère. Bien. Marc chapitre 16, verset 15. Patrick, tu as donné une parole tout à l'heure. Allez dans le monde entier et prêchez à toute la création. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce que tu as cru ? Oui, tu as cru. Puisque tu es une nouvelle créature en Christ. Ceux qui auront cru, en mon nom, ils chasseront les démons. Est-ce qu'il est parlé ici de quelques élus ? Non. Ceux qui auront cru. Ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ceux qui auront cru. Donc ça, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Maintenant, quand il est dit, aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création, Dieu ne t'appelle pas forcément à prendre un billet d'avion pour l'autre bout de la planète. Va là où Dieu t'a placé, là où Dieu t'appelle. Et tu exerces le ministère de la réconciliation. Éphésiens chapitre 2. Ça va, c'est clair jusque-là ? Je veux vraiment clarifier les choses, d'une part pour que vous voyez que il n'y a pas tant de distinction que ça dans le corps de Christ, vis-à-vis de l'appel, vis-à-vis du ministère, vis-à-vis des choses comme cela. Jusqu'ici, on est tous logés à la même enseigne. Ok ? Éphésiens chapitre 2, verset 1 et suivant. Il nous est dit, jusqu'au verset 10, on va le lire. « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus vivants avec Christ, c'est par grâce que vous êtes sauvés. » Aucun d'entre nous n'a mérité ça. Bah d'abord, on n'était pas nés, pour commencer. Donc ça a été fait avant même notre arrivée sur Terre. Mais il est clair ici que ça ne se mérite pas. Tout a été accompli avant l'invitation, le banquet, tout était préparé avant même que nous bougions le petit doigt. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Quoi d'autre ? Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Waouh ! Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. On va faire une pause ici. Pourquoi est-ce que Dieu a fait tout ça ? Parce qu'il te voulait, oui, ça c'est certain. Mais pourquoi est-ce que tu es toujours sur terre ? Afin de montrer quelque chose. Montrer quelque chose. C'est-à-dire que tu es la vitrine de Dieu. Tu es la démonstration de l'amour de Dieu. Et avec tout l'amour que j'ai pour toi, si ça marche pour toi, ça marche pour n'importe qui. Si Dieu a été capable de faire ça avec toi, alors il y a de l'espoir pour tout le monde. Et avec moi. Afin de montrer l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Est-ce que certains ont déjà vu cette vieille carte ? J'ai pas eu le temps de la retrouver, mais une vieille carte du monde avec Israël au centre. Et Israël est dans un cercle et il y a des pétales, comme une fleur, qui représentent les continents qui sont reliés au Moyen-Orient. Certains ont déjà vu cette vieille, comme une vieille map monde comme ça ? Ça vous dit rien ? Il faudrait que je vous la retrouve. Vous avez Israël qui est au centre, dans un cercle, et vous avez un pétale qui représente l'Europe, un pétale qui représente l'Asie, un pétale qui représente l'Afrique. Je ne sais pas si à l'époque l'Amérique avait déjà été découverte ou pas encore, mais ce qui est certain, c'est que le Moyen-Orient et Israël en particulier étaient une plaque tournante pour pouvoir passer d'un continent à l'autre. Donc toutes les marchandises, toutes les caravanes, tous les transports, tous les voyageurs passaient par Israël pour aller d'un continent à l'autre. Quel était le but de cela ? Le but, c'était que les gens, si Dieu a placé Israël là où il l'a placé, c'est pas pour rien. C'était que les gens, et encore aujourd'hui, les caméras sont toujours braquées sur Israël, c'était que les gens voient Dieu à l'œuvre dans ce pays et disent, mais leur Dieu, on vivait dans un monde très religieux, toujours aujourd'hui d'ailleurs, sauf que Dieu est devenu humain, mais c'est l'humain qui est adoré aujourd'hui. Mais que les gens voient et disent « Leur Dieu les bénit, ces gens-là sont différents, ils vivent différemment. » Qu'en est-il de nous aujourd'hui ? Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Donc non seulement aujourd'hui tandis qu'on est sur terre, mais même au-delà. Dieu a fait certaines choses pour que nous puissions être des démonstrations de sa bonté dans notre génération. Ce qui va de pair avec la parole qu'on a eue tout à l'heure. Dans Luc 4, où il est dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour. Ok ? Donc, afin de montrer, on continue. Verset 8, c'est par la grâce, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car, regardez bien le verset 10, nous sommes son ouvrage. Il y a des gens qui se vantent en disant « Ah, moi je suis autodidacte, moi je me suis fait tout seul. » Pas en Christ. Nous sommes son ouvrage. Pas celui de tes parents, pas celui de tes profs, pas celui de ta culture, pas celui de ton conjoint, pas celui de tes enfants. Non, non, non. En Christ, tu es son ouvrage. Ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Pour de bonnes œuvres. Ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Pourquoi tu as été créé en Christ ? Pour accomplir certaines choses. De bonnes œuvres. C'est quoi les bonnes œuvres ? C'est les œuvres que lui qualifie de bonnes. Ce n'est pas le fait de donner à la Croix-Rouge uniquement. Même pas forcément, je dirais. Ah, oh, oh, j'ai donné, tu te rends compte, cette année, j'ai donné 10 000 euros à la Croix-Rouge. Ah oui, Dieu te l'avait demandé de le faire ? Oui, mais tu te rends compte ce qu'ils ont pu faire avec cet argent ? En vérité, je m'en fiche. Est-ce que Dieu t'avait demandé de le faire ? On parle du point de vue chrétien, on parle du point de vue de la récompense éternelle, on parle du point de vue de ce pourquoi nous avons été placés ici. Est-ce que Dieu t'avait demandé de le faire ? Les bonnes œuvres. Et c'est vrai que dans le... Hein ? Ah, j'ai donné aux bonnes œuvres. Toutes, les bonnes œuvres, ça va toujours avec l'association caritative. Tu sais pas pourquoi, mais... mais peut-être qu'être tel jour, à tel endroit, à tel moment, et que tu as obéi au Saint-Esprit, ça, c'est une bonne œuvre. Une œuvre que Dieu qualifie de bonne. Dire telle chose à telle personne, à tel moment, c'est une bonne œuvre, parce que tu avais l'injonction du Saint-Esprit et que tu l'as suivie. Vous comprenez comment ça marche ? Et Dieu nous a créés pour ça. Il t'a appelé pour ça. Le ministère de la réconciliation. Ce qui veut dire que toutes les œuvres que Dieu qualifie de bonnes vont être liées au ministère de la réconciliation. Parce que c'est ça, c'est son objectif. Démontrer sa bonté. Dans quel but ? Pour que les gens viennent à lui, acceptent la réconciliation. De bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Décidément, il a fait beaucoup de choses d'avance. Il a tout fait d'avance. Et nous, aujourd'hui, c'est quoi le but ? Le but, c'est qu'on déroule le plan avec lui au fur et à mesure, qu'on exécute le plan au fur et à mesure. Et ça, ça sera qualifié de bonne œuvre par le Seigneur. Et on connaît les récompenses qui vont avec. Bien. Alors, il nous est dit, on l'a vu tout à l'heure, nous sommes serviteurs de Christ. Vous vous souvenez de ça ? Serviteur. Ce mot serviteur, en grec, diakonos, ce qui donnera en français le mot diacre. Ok ? Vous l'avez déjà entendu ce mot ? Les diacres ? D'accord. Ça veut dire quoi, diakonos ? Domestique, subordonné, messager. Est-ce qu'il y a une gloire à retirer de ça ? Je ne suis pas sûr. Est-ce que c'est vil ? Non, pas du tout. Mais si je suis le domestique de quelqu'un, l'importance est sur ce quelqu'un. Si je suis le subordonné de quelqu'un, l'importance est sur ce quelqu'un. Si je suis le messager de quelqu'un, l'important est de celui qui a rédigé le message. L'importance est sur lui. Ok ? Matthieu chapitre 20 verset 26, je vous le lis. Il nous est dit, quiconque, c'est ce que Jésus a dit, veut être grand parmi vous, qu'il soit votre diakonos, qu'il soit votre serviteur, qu'il soit votre domestique, qu'il soit parmi vous comme un subordonné, un messager. Serviteur. Bien. Ça vaut, ce mot, pour celui qui passe le balai, comme pour l'apôtre. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus ? Paul, regardez, c'est assez marrant, on va faire un exercice. Romains, chapitre. On va regarder le début de chaque épître. D'accord ? Je ne te l'ai pas donné, mais ce n'est pas grave. Regardez dans votre Bible. Romains 1:1, on l'a vu tout à l'heure. Paul, serviteur de Jésus-Christ. Donc avant toute discussion, la manière dont Paul se définit, c'est comme diakonos, un subordonné, un subalterne, un messager, un domestique. Et c'est encore mieux dans d'autres épîtres, où il s'annonce lui-même comme esclave, c'est-à-dire doulos. Alors là, c'est le plus bas du plus bas du plus bas. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, ça c'est ce que Dieu a voulu qu'il fasse, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Ça c'est Romains. Corinthiens. 1 Corinthiens, il nous est dit, Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Ce n'est pas lui qui s'est autoproclamé apôtre. Ce n'est pas lui qui a décidé. Je pense que ce serait une bonne œuvre si je consacrais ma vie à annoncer l'évangile. Par la volonté de Dieu. Tu es subordonné de Dieu. Tu es messager de Dieu. Tu es, qu'est-ce qu'on a vu encore ? Domestique de Dieu. Tout apôtre sois-tu. 2 Corinthiens, comme il écrit aux mêmes personnes, je ne suis pas sûr qu'il se soit présenté de la même façon. Paul, apôtre pareil, de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Donc il prend bien soin de se rappeler et de rappeler aux autres à chaque fois, ce n'est pas un choix de ma part, c'est quelque chose qui m'a été présenté, que j'ai accepté, mais c'est toujours par la volonté de Dieu. Éphésiens. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Ça va, vous commencez à voir l'image. Philippiens. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ. Diakonos. Continue. Colossiens. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Je vais m'arrêter là, vous ferez la fin de l'exercice vous-même. Par la volonté de Dieu. Serviteur. Je vais être très honnête avec vous, hein. Mon but ce matin, c'est de crever quelques baudruches, dégonfler quelques montgolfières. Il y a des fois où il faut détruire pour construire correctement. Hein. Donc, ok. Donc, serviteur, ça vaut pour lui, pour le plus bas subordonné, comme pour l'apôtre. Bien. Le mot diakonos dans le Nouveau Testament, il est aussi utilisé pour ceux qui vont accomplir un service dans l'Église. Là, par exemple, on a deux, alors je ne connais pas le pluriel, excusez-moi, mais deux diakonos derrière la table de la sono. À l'accueil tout à l'heure, vous avez été accueillis par des diakonos. Et puis ensuite, on a loué le Seigneur avec des musiciens qui sont des diakonos. Et puis, Jean-Marc, il va régler la température de la pièce ou il va faire d'autres choses parce que c'est un serviteur de Dieu, oui, et il se donne au service de l'église locale, de l'assemblée dont ils font partie. Donc nous sommes tous des diakonos de Dieu, des serviteurs de Dieu, mais au sein de l'église, il y a également une tâche particulière accomplie par certaines personnes particulières qui, eux, sont des serviteurs du corps local. Bien. Bien. 1 Corinthiens chapitre 12. Est-ce que vous comprenez ? Je sais que c'est assez scolaire, mais j'essaye vraiment de vous montrer par les Écritures que les mots que l'on emploie, au fil du temps, on a tendance à leur attribuer des choses, soit qui ne sont pas dans les Écritures, soit qui sont trop poussés à l'extrême par rapport aux Écritures. Nous sommes tous appelés au salut. Nous sommes tous appelés au ministère de la réconciliation. Nous sommes tous des serviteurs. Même Paul était un serviteur de Dieu, par la volonté de Dieu. Ok ? 1 Corinthiens chapitre 12, au verset 4, il nous est dit « Il y a diversité de dons, mais le même esprit. » Ce qui veut dire que c'est l'esprit qui fait les dons. Un seul et même esprit qui fait des dons divers. Et des fois, vous êtes tellement sérieux, j'ai envie de faire des vieilles blagues, mais je suis pas sûr. J'allais dire, il fait des dons d'hiver, même l'été. Bon, elle est nulle, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est juste histoire de... Merci, merci. C'est juste histoire de... Voilà. Il y a des fois où je peux monter sur une chaise, il y a des fois... Il y a une fois un prédicateur qui était venu à l'église, il a voulu monter sur une chaise, la chaise s'est renversée. Il m'en parle encore aujourd'hui. Hein. Il me dit, oh là là, oui, c'est là. Piteux exemple de Michael Jordan. Bon. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le don que tu reçois, c'est pas le don que la personne d'à côté reçoit, il n'y a pas besoin de se comparer. Et personne n'a tous les dons non plus. Sinon, le corps de Christ ne sert à rien, on est complémentaires. C'est toute la démonstration de Paul dans les chapitres 12, 13, 14, c'est de dire, non, l'Église universelle est un corps, et dans ce corps, ben, chacun a son rôle à jouer. Et il y a des petits organes dans le corps humain auxquels on ne pense pas forcément, mais si on te les enlève, tu vas voir la différence. Des petits os, imaginez la taille d'un os de l'oreille. Et hop, on l'enlève. Tu vas tout de suite voir la différence. Des trucs microscopiques. Donc il y a cette diversité de dons, mais le même esprit. Le Saint-Esprit fait des dons. C'est écrit ici. Okay? Ensuite, diversité de ministère. Ah, oh, ministère. Vous savez ce que c'est le mot ministère en grec? Diakonia. Le service. Des services. Donc, oh, quel grand ministère. Oui, oui, c'est un serviteur de Dieu, comme toi et moi. Un serviteur de Dieu. Diversité. Alors, il y a une chose que j'aborderai peut-être pas cette semaine. Si j'ai l'honneur de prêcher la semaine prochaine, je l'aborderai la semaine prochaine ou une prochaine fois. Mais effectivement, il y a... On a vu tout à l'heure que Paul est serviteur de Dieu, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile. Ça, c'est autre chose. Mais quoi qu'il en soit, restez avec moi. Diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, de services, mais le même Seigneur. Ça veut dire quoi? Mais ce que tu fais, ce que je fais, ce que l'autre fait, on le fait pour le même Seigneur. Et le Seigneur donne ses ordres à chacun comme il veut. Il t'a appelé à faire... Il t'a appelé, invité à faire quelque chose. Il a appelé l'autre à faire autre chose. Mais ce que fait l'autre n'est pas plus glorieux que ce que toi tu fais. Oui, mais lui, tu te rends compte, il voyage dans le monde entier. Tu veux que je te dise? Si Dieu ne t'a pas demandé de faire ça et que tu fais ça comme l'autre le fait, tu vas exploser en plein vol, au propre comme au figuré peut-être. Parce que tu n'as pas la grâce qui va avec. Et l'autre n'a peut-être pas la grâce que toi tu as. Je vais vous donner un exemple tout à fait concret. J'ai gardé mes enfants toute la matinée hier. J'ai pas la grâce de ma femme. Elle n'est pas là. Elle écoutera le message. Je n'ai pas la grâce de ma femme. Mais elle n'a sans doute pas la grâce que moi j'ai pour faire ce que je fais. Donc, en ce qui concerne le fait que nous sommes tous des serviteurs, il y a une diversité de ministères. Mais le même Seigneur. Et on a bien compris que le plus grand prédicateur auquel vous puissiez penser est un serviteur de Dieu, tout comme nous, qui faisons ce que le Seigneur nous appelle à faire au quotidien. Bien. Diversité, verset 6, d'opérations. Ça, c'est intéressant. Mais le même Dieu qui opère tout en tous. Donc, les opérations dont il est question ici, c'est Dieu qui les fait. Ce n'est pas toi qui les fais pour lui, c'est lui qui les fait en toi. Donc, Dieu va opérer différemment, diversement, en l'un et en l'autre, mais c'est le même Dieu qui est au-dessus de tout ça. Et la manière qu'il a eu de procéder avec ton voisin, ça ne sera pas la manière qu'il a de procéder avec toi. Pourquoi? Parce que tu n'es pas ton voisin. Toi, tu es un individu unique. L'esprit qui est en toi est unique. Ta culture, ton éducation, ton vécu, ton futur sont uniques. Et il agit, il opère tout en tous. Personne n'est laissé sur la touche. Or, verset... Où suis-je? Dans 4, 5, 6, je voulais m'arrêter là. Donc, le Saint-Esprit fait des dons. Pour ceux que ça intéresse, vous regarderez de votre côté dans Romains 12 et dans 1 Corinthiens 12 notamment, il est question, plus loin dans ce verset, donc dans ce chapitre et dans Romains 12, des dons que fait le Saint-Esprit. Et vous allez voir que c'est très varié. Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit fait des dons, rappelez-moi ? Pour la réconciliation. La réconciliation. Les dons que le Saint-Esprit nous a donnés, c'est pour que nous les utilisions dans notre ministère de la réconciliation. Dans l'Église et hors de l'Église. Il n'y a pas grand monde à réconcilier avec Dieu dans les églises, hélas. Mais dehors, il y en a plein. Donc quand le Seigneur te donne, et vous verrez que certains de ces dons sont des dons permanents, mais la plupart de ces dons sont des dons ponctuels, en fonction des besoins. Une parole. À l'un est donnée, c'est ici, hein, chapitre 12, verset 8, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse. Ne t'auto-proclame pas prophète. Grand 1, comme si c'était particulièrement glorieux, alors qu'on a bien compris que c'est un serviteur de Dieu comme d'autres. Maintenant, il y a, pour certaines fonctions, un certain honneur. On est bien d'accord. Mais ce que je veux dire par là, c'est que arrêtons de considérer d'autres, ou arrêtons de considérer là où nous voudrions aller comme en haut de la montagne et les autres sont en bas de la montagne. Ça ne marche pas comme ça. Et puis 2, est donné par l'Esprit une parole de sagesse, une parole de connaissance. La foi, ah, il y en a un qui, est donné, qui a reçu un don de foi particulier. Oui, pour un besoin particulier à un instant T. Sans quoi la foi vient, la foi de manière générale, vient en entendant et en entendant la parole de Dieu, Romains 10, 17. Donc, le Saint-Esprit fait des dons qui sont divers. Et vous regarderez également dans Romains. Ça peut être le fait de diriger, le fait d'enseigner, le fait de servir. Si je te prends et que je te mets derrière la table sono, ça va donner quoi? Oh, bien formé, ça passera. Faux! Si tu n'as pas l'onction de Dieu sur toi, si tu n'es pas appelé à ce service-là, ça ne donnera rien. Alors, il y a des fois où à la guerre comme à la guerre. On est bien d'accord là-dessus. D'accord? Mais l'idéal, ce n'est pas ça. L'idéal, c'est que tu sois à l'endroit où tu es loin pour être, dans le service pratique du corps de Christ. Ok. Donc, c'est par le Saint-Esprit, pour le Seigneur, c'est Dieu qui opère tout en tous. On est bien d'accord là-dessus. Romains chapitre 13, verset 6. Romains chapitre 13, verset 6. Je vais vous montrer quelque chose que j'ai découvert ce matin. Et vous allez voir que c'est intéressant. Parce que jusqu'à présent, on a tendance à croire que c'est pour l'Église, dans l'Église, entre les quatre murs de l'Église, le dimanche matin, éventuellement le mardi soir. Est-ce que tu sais que Dieu peut t'appeler, te donner les dons nécessaires pour être ministre de la réconciliation, pour accomplir sa volonté sur terre, en dehors des quatre murs de l'Église ? Romains 13, 6, regardez ça. Non, 13, ouais, 6, c'est bien ça. C'est aussi pour ça que vous payez les impôts. Alors, on se replace deux secondes dans le contexte de Paul. Je ne suis pas, d'abord, il n'habitait pas en France, et pas en 2019. D'accord ? C'est-à-dire que sachant que nous sommes le pays le plus taxé du monde, pas d'Europe, hein, du monde. Ils disent d'Europe dans les journaux, mais regardez d'autres sources, vous verrez que c'est du monde. Et sachant en plus qu'aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire qu'on est plus matraqué qu'on ne l'a jamais été, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans toute l'histoire de l'humanité, il n'y a pas pire que la France en termes de fiscalité. Ok ? Je ne pense pas que ce soit le cas en l'an 30 ou 50, on va dire, à Rome, où qu'il se trouve. Bien qu'il écrive aux Romains, donc ça doit être Rome. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts. Que vous payez, hein, les impôts. Je fais des parenthèses dans les parenthèses, mais pas seulement qu'on vous réclame les impôts. Il écrit à des chrétiens, hein, que vous les payez, les impôts. Il parle de quoi ? Il parle des magistrats. Car les magistrats sont des ministres de Dieu. Entièrement appliqués à cette fonction. Car les magistrats, je sais, quiconque est passé par un divorce ou par un procès se dit, ben, je peux te dire que le mien, c'était pas ministre de Dieu. Hein. vendu. Bon, on rentre pas là-dedans. Je suis mieux placé que quiconque pour savoir ces choses-là, ou en tout cas pour les entendre. Mais le principe, c'est que le magistrat, il n'est pas dans l'Église, le magistrat. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'exerce pas au sein de l'Église, il exerce dans la société. Le magistrat est un ministre de Dieu. Ça devrait peut-être être enseigné à l'ENM, ça. Je pense qu'ils prendraient peut-être, certains prendraient leur fonction différemment. Attention, messieurs, dames, voilà dans quel office vous allez vous tenir quand vous allez mettre la robe. Et pourquoi il faut payer les impôts ? Parce que le magistrat est entièrement appliqué à cette fonction. C'est-à-dire que le gars qui était magistrat à l'époque, il faisait pas autre chose. Mais il avait une famille à nourrir. Il fallait qu'il mange. Donc, dans la logique de Dieu, dans la société humaine, on paye des impôts de manière à ce que certaines fonctions puissent être accomplies par des gens qui s'y consacrent complètement. Et la semaine prochaine, on parlera de ceux qui sont ministres de Dieu à plein temps, ministres de la parole à plein temps. Mais vous voyez le principe ici ? Et je trouvais très intéressant qu'ils disent cela d'un rôle qui est dans la société, pas au sein de l'Église. Il n'a pas dit « Oh, les apôtres sont des ministres de Dieu. » Oui, ben ça, on a bien compris. Non, non, les prédicateurs sont des... Non, les magistrats, ce sont des ministres de Dieu. Donc non seulement il y a des appels que Dieu donne aux individus, mais il y a également des fonctions qui ont été instaurées par Dieu pour que sa volonté soit faite. Ministre veut dire serviteur. Ministre des Affaires étrangères, serviteur. Ministre du budget, serviteur. Et le premier serviteur, alors, il devrait être comment, lui ? Premier ministre, ça veut dire serviteur. Ok. Je ne fais pas de politique. Enfin, plus exactement, je fais de la politique, mais je ne cite personne, parce que c'est valable quelle que soit la couleur, qu'on soit bleu, rose, rouge, noir, brun, vert, ou ce que vous voulez, ou jaune, en gilet jaune. C'est la même chose. Bien. Donc, nous sommes tous appelés au salut, ça on l'a bien compris, et ceux qui acceptent ce salut rentrent dans un ministère qui est le ministère de la réconciliation. Qu'est-ce que c'est que ce ministère de la réconciliation ? C'est l'objectif que Dieu veut que tu atteignes. Qu'est-ce qu'il t'a donné pour ça ? Les dons du Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu fais quand tu es ministre ? Tu es un serviteur de Dieu. Quoi que tu fasses pour faciliter le message de la réconciliation, tu es serviteur de Dieu et tu es dans le ministère de la réconciliation. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Vous le voyez ça ? Tous appelés à le servir, lui. Tous appelés à des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Lesquelles ? J'en sais rien. Moi, je sais pour moi, et encore. Il y a des fois où c'est presque d'un mois sur l'autre. Mais est-ce que j'ai une vision à 30 ans ? Non. Non. Mais c'est au fur et à mesure. Regardez Esther, comment ça s'est passé. Elle était tellement pas consciente de l'agencement des choses dans l'histoire avec un grand H et dans sa petite histoire à elle, dont elle était une composante, qu'il a fallu que ce soit son oncle qui lui dise à un moment donné « Eh oh ! Ouvre les yeux ! Oui, mais qu'est-ce qu'il va faire le roi ? Il va me couper la tête ! Oh ! C'est pour un temps tel que celui-ci que tu as été là où tu as été. Tu crois que c'est un hasard si tu as été choisi ? Qu'est-ce que tu crois ? Mais qu'est-ce que tu crois ? Que tu étais la plus belle ? Peut-être. Et pourquoi ? Et pourquoi ? Pour un temps tel que celui-ci. À un moment donné, elle s'est rendue compte que pas à pas, pas à pas, pas à pas, elle était en train de faire ce que Dieu voulait qu'elle fasse. Paul, vous verrez en relisant les Épîtres, ou le livre des Actes, les deux, parce que ça se complète, que Paul a été appelé, si vous regardez dans Actes au chapitre 9, on va pas le faire ensemble, hein, mais vous relirez, dans Actes au chapitre 9, vous verrez qu'il a eu cette révélation fracassante de Jésus-Christ, et qu'il a dit, bon, mais qu'est-ce que je dois faire ? Première chose que Jésus lui a dit, entre en ville et on te dira ce que tu dois faire. Il n'a pas dit, ah, bouge pas, t'es prêt ? Attention, 1, 2, 3, les 60 prochaines années. Entre en ville et on te dira ce que tu dois faire. Et parallèlement, il y avait un disciple qui s'appelait Ananias. Ananias. Je vous laisse imaginer quel était son fruit préféré. Ça vole pas très haut hein, ce matin. Hein, je sais. Le pasteur a toujours dit, le prédicateur ne peut donner que ce que les gens puisent de lui. Alors, vous avez ce que vous voulez. Hein. Et Ananias, le Seigneur lui a dit, va à tel endroit, lève-toi, va à tel endroit, dans telle rue, tu trouves telle maison, tu rentres et tu vas trouver telle personne et tu vas lui dire ça. Ce n'était pas un plan sur 30 ans, mais il l'a fait et c'était une bonne œuvre. Que se serait-il passé s'il ne l'avait pas fait? Je ne sais pas, hein, on peut se poser des questions. Donc il y va, et quand Ananias commence à dire « Seigneur, c'est Adolf Hitler, là, le gars !» Et le Seigneur lui dit « Oui, c'est un instrument de choix, et je vais lui révéler ce que j'ai pour lui, à savoir qu'il aille prêcher l'évangile dans les nations, devant les rois et devant les juifs. » Dans cet ordre-là, qui n'a pas été respecté par Paul. Passons. Pas dans un premier temps. Donc, il lui a dit, voilà ce que, la grande image, tu vas aller prêcher. Mais il lui a pas dit, prends déjà ton billet d'avion pour Chypre, parce que ça commence la semaine prochaine. Il a dit, il y a des gens parmi nous, ils savent, ils se voient en train de faire certaines choses. Déjà, je pose une question, et ça, ce n'est pas à moi d'y répondre, est-ce que c'est une vision ou est-ce que c'est un fantasme? Vous savez ce que c'est un fantasme? D'abord, beaucoup de gens pensent que le fantasme, c'est que dans le domaine sexuel. Faux. Le fantasme, c'est toute projection idéalisée d'une situation. Par exemple, quand tu as perdu au tennis contre ton cousin la semaine dernière, ou quand tu es ressorti de cette conversation et dans le bus, tu disais oh, « j'aurais dû dire ça, mais pourquoi je n'ai pas pensé, c'est comme ça que j'aurais dû faire ?» Et on se refait le film, vous savez, on se revoit en train de faire la scène, « Non, ce n'est pas comme ça, etc. » Et seulement, c'est trop tard. Tu as été minable. Prends ton bus et rentre chez toi. D'accord ? À la grâce de Dieu maintenant. Quand tu te refais le film, c'est un fantasme. Et donc, et je vais fermer la parenthèse là-dessus, mais il y a certaines choses que l'on se, entre guillemets, voit faire, je ne suis pas là pour décourager et pour dire « Ah non, c'est jamais de Dieu », c'est pas ça. Mais ayons aussi conscience du fait que nous sommes des êtres humains, encore perfectibles, je sais que ça peut paraître surprenant, hein, vous pensez peut-être que vous êtes arrivé au bout de la course, mais encore perfectibles, et que notre âme, notre vécu, notre sensibilité, nos émotions, elles aussi ont quelque chose à dire dans notre psychisme. Et que des fois, une bonne question à se poser, c'est pourquoi, véritablement, je voudrais faire ça? Pourquoi je me vois faire ça? Et si la réponse, c'est, d'une certaine façon, parce que ça m'élève un peu au-dessus de la masse, parce que je vais pouvoir prouver enfin à telle personne que je sonde vraiment ton cœur, demande au Saint-Esprit de t'aider, et tu verras si la raison est bonne. Mais je ferme la parenthèse là-dessus. Quoi qu'il en soit, je ne sais plus où j'en étais, Paul, oui, il lui a montré, mais il a fallu ensuite qu'au fur et à mesure, Paul découvre ce qu'il devait faire. Et nous verrons plus tard que ça a pris un moment. Et qu'en attendant, ben, Paul, il a dû faire autre chose. Et on verra quoi. D'accord ? Mais nous sommes tous appelés au salut. Nous sommes tous appelés à servir Dieu. Le Saint-Esprit nous a fait des dons. Nous restons serviteurs du même Seigneur, quoi que nous fassions. Et l'appel que Dieu nous a donné n'est pas celui du voisin. L'appel que Dieu nous a donné, c'est avant tout être appelé aux bonnes œuvres. Que tu fasses une chose ou que ça soit un plan sur 30 ans, ça reste une bonne œuvre. Vous comprenez? Ok, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, mais je pense, j'espère que déjà ça clarifie un petit peu certaines choses. Et que quand vous dites, est-ce que je suis appelé au ministère? Je n'ai pas besoin de prier, je te donne la réponse. Oui, absolument. Tu es déjà appelé au ministère. Depuis la pouponnière divine, avant qu'il t'envoie, quand il t'a choisi toi, il n'a pas choisi quelqu'un d'autre, il t'a choisi toi et il a fait « Allez, toi tu vas là-bas. » Et quand tu arrives sur terre, c'est pour une raison précise. Appelé, oui tu l'as été. Dans le ministère, et on y est tous déjà. Tous. Amen. Alors, pour ça c'est tout, la suite on verra plus tard, on va terminer par la prière. Seigneur, merci pour ta parole parce qu'elle est bonne. Et elle, merci aussi pour l'esprit de vérité dont on a entendu parler ce matin. Cet esprit de vérité qui nous dirige dans toute la vérité. Je te rends grâce, mon Dieu, parce que Le but n'est pas de dénigrer qui que ce soit ou quoi que ce soit, simplement de marcher dans la vérité, de dispenser droitement la parole. Et je te remercie parce que je crois que, par la foi, je crois que ça va provoquer du changement, que c'est ta volonté. Et je te remercie parce que tu continues de nous enseigner, tous autant que nous sommes, chacun, tu continues de nous enseigner à travers les Écritures. Pour ta gloire, pour ta gloire, couronne que tu vas nous donner, on va aller jeter au pied ton trône en disant « C'est pour toi, Seigneur, ta gloire. » Merci, mon Dieu, au nom de Jésus. Amen. Amen.